L'eau à la bouche. La midinale de Bob FM.
Parlez-en à votre boulangère.
Effectivement, en direct de l'École nationale supérieure d'art pour cette émission exceptionnelle, l'eau à la bouche de midi à 14h. Nous prenons bien tout de suite la direction de la direction, en fait, avec Jeanne, directrice de l'établissement. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Bienvenue sur les ondes de la radio Bob FM et derrière ce micro. Et merci tout particulièrement de l'accueil qu'il faut réserver à nos équipes depuis le début de cette semaine. Bienvenue dans l'eau à la bouche pour nous présenter l'institution, l'école, cette semaine de rentrée pour vous. Comment ça s'est préparé tout ça ?
Oh ben ça se prépare tous les ans de façon assez différente parce que une rentrée dans une école d'art, ça doit être un moment sinon festif en tous les cas qui permet aux nouveaux étudiants et aux étudiants habituels, les grandes années si on peut dire, de retrouver leur école et de comprendre pour les premières années dans quelle structure ils arrivent, c'est-à-dire c'est loin du lycée, c'est de l'enseignement supérieur, c'est particulier. Et donc, c'est pour nous important, sur le plan pédagogique, de proposer le plus souvent possible des nouvelles propositions, des propositions qui viennent de la réflexion des enseignants, pour questionner comme ça comment on rentre dans une école d'art.
Et oui, effectivement, vous le dites très bien, une école d'art ça m'est revenu à l'esprit, vous m'avez aidé à me souvenir de ça, mais dépend du ministère de la Culture et non du ministère de l'Éducation. Comment fonctionne une école donc nationale comme la vôtre ? Combien il y en a en France ? Par qui elles sont dirigées ?
Alors, une école comme la nôtre, il y en a 9 qui sont nationales sur 48 écoles supérieures d'art. Les autres sont territoriales. Tout ça, c'est un peu administratif, hein, c'est des histoires financières. Mais bon, pour le dire simplement, nous, nationales, nous dépendons directement du ministère de la Culture et de l'enseignement supérieur.
D'accord. Et donc, c'est eux qui vous donnent les directives
Alors, c'est eux qui donnent exactement 93% du budget de l'école. Le reste des budgets, pour être précise, c'est les frais d'inscription et quelques partenaires plus ou moins locaux, donc la mairie et la région.
D'accord. Donc, les chiffres, on ne va pas effectivement s'étendre trop dessus, tout comme sur les règles sanitaires qui, évidemment, sont respectées ici. Le protocole est appliqué, on en parlait tous les deux tout à l'heure. On va plutôt, s'intéresser aux élèves de première année, mais pas que. En tout cas, moi, c'est la première fois que je rentre dans cet établissement, pour tout vous dire. Et j'aurais aimé me mettre dans la peau d'un élève de première année qui découvre les lieux en cette semaine. Est-ce qu'il a déjà eu la possibilité de venir dans l'école, ou est-ce qu'elle est ouverte que depuis lundi ?
Oui, alors tous les étudiants qui maintenant sont étudiants ont été auparavant candidats. Il faut savoir que cette école propose 3 concours, un en mars, un peu comme toutes les écoles, un en septembre et un délocalisé que nous faisons en région parisienne pour permettre plus particulièrement aux étudiants qui viennent de loin d'éviter de faire trop de trajets pour venir passer ces concours et de profiter plutôt de choisir de venir aux journées portes ouvertes qui sont pour nous un moment important puisqu'on ouvre l'école intégralement. Tous les étudiants participent, énormément d'enseignants mettent en place avec les étudiants un certain nombre de projets pédagogiques qui sont montrés à ce moment-là et qui permettent à des lycéens ou à des personnes qui ont fait d'autres parcours dans l'enseignement supérieur. Hein. On n'est pas, on rentre pas en première année seulement en sortant du lycée, parfois en sortant de prépa, mais aussi parce qu'on a fait 2 ans de géographie et que maintenant on aurait envie de faire une école d'art. Oui. Voilà, par exemple.
Pour intégrer des cursus équivalents, en tout cas.
Les écoles d'art françaises comme celle-ci et les autres sont de toute façon assimilées au programme des universités. Hein. Un DNA, ce que nous on appelle un DNA, diplôme national d'art, c'est l'équivalent d'une licence. Ça a le grade de licence. Et un DNSEP, diplôme national supérieur d'études plastiques, ça a le grade de master.
D'accord. Voilà.
De plus, l'ENSA Limoges a un master partagé avec l'université qui s'appelle CCIC, création contemporaine et industrie culturelle. voilà, qui permet à des étudiants de choisir en second cycle des orientations quelque peu différenciées. Le premier cycle, ça sert vraiment à découvrir ce qu'est le monde de la création, comment on met en œuvre un travail créatif et vers quoi on va aller. On a des étudiants qui font bien sûr leurs 5 ans chez nous et qui deviennent artistes. On a des étudiants qui font 3 ans chez nous et qui vont faire de l'architecture, du design industriel ou que sais-je. On a des étudiants qui vont faire des lettres ensuite, etc., etc.
D'accord, donc ça fait partie des particularités de l'école de Limoges ?
Non, ça fait partie des particularités des écoles d'art.
Tout simplement. Et oui. Pour ce qui concerne les particularités de l'école de Limoges, on a vu qu'il y avait une formation céramique.
L'école de Limoges, historiquement, elle a été créée au moment du musée Adrien Duboucher. Donc, bien sûr, son essence était la céramique, hein, était de créer des personnes ayant des capacités créatives pour les entreprises de porcelaine. Les temps ont pas mal changé. Dans les années 80, l'école est devenue une école supérieure d'art, c'est-à-dire que sa mission, c'est d'ouvrir les champs de la création les plus larges possibles à ses étudiants. Mais l'histoire fait que cette école a des outils céramiques de très 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 haute qualité.
D'accord.
Elle a 1600 mètres carrés d'atelier céramique, je crois, ce qui est énorme.
Et ça permet d'attirer des élèves de la France entière, on imagine, avoir.
Oui, je ne sais pas très sincèrement quand on a 18 ans si on a beaucoup ont envie de faire de la céramique, surtout dans la tradition et l'idée de la porcelaine de Limoges. Je ne crois pas que beaucoup d'étudiants de 17-18 ans viennent pour faire des arts de la table. Il y en a peut-être, mais je crois surtout qu'on vient dans une école d'art parce que les champs de la création vous intéressent. Et quand on a 17-18 ans en ce moment, on s'intéresse plus au manga qu'au décor porcelaine, vous voyez, je crois.
Oui, tout à fait.
Mais ça n'empêche pas de rentrer dans n'importe quelle école d'art et de se confronter à ce que peut être les champs de la création. Et cette école n'ouvre pas seulement vraiment à la céramique. Bien sûr, quand on est à Limoges, ce serait vraiment dommage de ne jamais en faire, au moins un petit peu. Mais aucun de nos diplômes de cinquième année se cantonne à un seul média, un seul outil ou un seul atelier, si vous voulez. C'est très important dans les champs de la création contemporaine de se questionner par rapport à des approches qu'on peut définir comme théoriques, mais qui vont vous amener à aller d'un atelier à l'autre.
C'est les cycles de découverte quand on est un étudiant de première année pour voir tous les médiums qui sont proposés dans l'école. Après, il y a des spécialisations, j'imagine, aussi.
En première année, si vous voulez, ce qu'il faut acquérir, c'est le vocabulaire qui est le nôtre, notre vocabulaire professionnel. Voilà, qu'on parle la même langue et également qu'on permette aux étudiants de développer leur curiosité en leur montrant aussi un certain nombre d'aspects auxquels ils peuvent avoir accès.
D'accord, tout à fait. Et puis, pour avoir les enseignements dignes de ce nom de tous ces médiums, j'imagine qu'il faut constituer un corps enseignant également qui sait allier le côté théorique, le côté artistique, avoir différentes technique. Comment vous constituez le corps étudiant,
alors,
le corps
moi,
enseignant,
je ne constitue pas le corps enseignant. Le corps enseignant, les enseignants sont avant tout des artistes. Ils sont tous des créateurs avec des champs d'exploration qui sont les leurs et différents. On ne devient pas enseignant dans une école d'art parce qu'on a un cursus d'apprentissage pédagogique, par exemple, mais on devient enseignant dans une école d'art parce qu'on a une pratique artistique. Voilà. Donc, être étudiant dans une école d'art, c'est être à la rencontre de créateurs, de générations différentes, hein, puisque les gens qui ont 40 ans ne travaillent pas comme les gens qui ont 50 ans. C'est pas la même histoire de mise en œuvre, de champ de la création, de marché de l'art, etc., etc.
Oui, et dans vos enseignants, est-ce que vous avez d'anciens élèves ?
Oui, il y a d'anciens élèves. Il y a d'anciens élèves de l'école de Limoges, je crois qu'il y en a un. Et il y a beaucoup d'anciens élèves d'autres écoles d'art.
D'accord.
Et de parcours parfois plus complexes.
Oui, ok. En parlant d'anciens élèves, justement, est-ce que vous avez toujours des liens avec eux? Puisque nous, en tant que Radio Bob FM, on a toujours une page d'agenda culturel dans nos émissions. On note souvent des espaces d'exposition, des résidences, des workshops. Il se passe beaucoup de choses à côté, eh bien, on va dire, de l'enseignement classique, des cours classiques. Comment ça, vous l'organisez? Comment vous le gérez?
Ben vous savez, une école comme celle-ci, si vous avez été vous promener un peu dedans, c'est une richesse d'ateliers, de matériel, de savoir-faire énorme. Donc quand on a pris ses marques dans une école comme ça, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter après. Et donc c'est tout à fait normal que l'école continue à accueillir ses anciens étudiants pour les accompagner sur des propositions diverses et variées. Il y a certains de nos anciens étudiants qui donnent des cours pour les ateliers dits publics, d'initiation par exemple au champ de la création quand on a 16-17 ans avec les ateliers Y, ou des cours de peinture plutôt suivis par des adultes, ou des cours de construction, etc.
Ça vous arrive de suivre vos étudiants pour valoriser leur travail après, une fois qu'ils sont sortis de l'école?
Ben, vous savez, valoriser le travail de nos étudiants une fois qu'ils sont sortis de l'école, c'est valoriser l'ENSA Limoges.
Oui, tout à fait. C'est une bonne réponse. Oui. Est-ce que, justement, pour les élèves qui le souhaitent également, on a pu constater qu'il y a des partenariats mis en place avec, ça fait partie du rayonnement de l'ENSA en dehors, non seulement du Limousin, mais aussi de la France, avec des partenariats avec la Chine, des écoles chinoises. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, est-ce que ça se fait sur une période de l'année, ou est-ce que vous recevez des étudiants chinois, vous en envoyez également? Comment ça se passe?
Bon, alors en ce moment, c'est pas tout à fait d'actualité, mais en dehors de la période un peu critique sur les relations que nous pouvons avoir avec la Chine, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que la porcelaine est historiquement venue de Chine, et donc de Jingzhen, avec le mont Kaolin, bon, etc. Donc on a créé, il y a longtemps, hein, je crois que c'était en 2011 ou 2012, un post-diplôme qui donne lieu à 3 mois de séjour en Chine. Alors un post-diplôme, c'est une année, comme une sorte de sixième année que l'on fait une fois qu'on est diplômé ou une fois qu'on est jeune artiste, et on vient re-questionner comme ça des champs de création particuliers liés à la porcelaine avec un artiste qui est choisi pendant 12 à 18 mois. Voilà. Et normalement, ce post-diplôme va tous les ans 3 mois en Chine. Bon, en ce moment, il n'y va pas. Voilà, je ne sais pas bien comment cela va évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est une partie de nos échanges avec la Chine. Dans cette école, il y a eu à un moment, et il y a toujours, un certain nombre d'étudiants qui venaient de Chine suivre nos enseignements. Et ces étudiants, une fois rentrés chez eux, travaillent pour certains, comme les artistes français, dans des écoles supérieures d'art. Et ensuite, ils ont comme ça le désir de recréer des liens avec l'école. Et il y a un lien, par exemple, qui a été créé avec un de nos anciens étudiants, avec l'université de Xi'an, où là, ce n'est pas des étudiants qu'on envoie, c'est des enseignants qui vont passer 15 jours dans cette université pour travailler avec un groupe d'étudiants.
D'accord, effectivement. Mais justement, alors, quels sont les retours des étudiants lorsqu'ils reviennent, et même des enseignants? Qu'est-ce qu'ils peuvent rapporter de là-bas pour l'ENSA?
Ça, il faudrait leur demander à eux. Je pense que c'est le mieux. Mais ce qui est important, de toute façon, quand on est un créateur ou quand on est un étudiant dans les champs de la création, c'est d'être confronté à des propositions et à des situations un peu, entre guillemets, inédites pour re-questionner nos propres façons de voir les choses. Donc c'est toujours, ça fait toujours beaucoup de bien d'aller voir un peu ailleurs comment ça se passe.
Oui, et pour l'instant, donc c'est la buée totale, le brouillard total, pour savoir quand est-ce que ça va repartir.
Pour l'instant, c'est pas vraiment le brouillard total, mais c'est un peu compliqué d'imaginer les échanges avec la Chine. Pas du tout, parce que on aurait peur d'aller en Chine, mais parce que eux, ils ne veulent absolument pas d'Européens en ce moment.
Oui, d'accord. Mais il n'y aurait pas des moyens de
mais
trouver...
Mais ça peut changer dans 15 jours, je ne peux pas vous dire ça.
Il n'y aurait pas moyen de trouver sur certains médiums des façons de communiquer à distance à travers
Bon, mais il y a plein de façons de communiquer à distance. Bon, alors avec la Chine, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais on connaît tous les difficultés de communication liées à Internet et avec la Chine. Et je pense que ce n'est pas vraiment la bonne période, mais ce n'est pas du tout lié au Covid.
Oui, mais alors pour se raccrocher justement à l'actualité, sans s'étendre, on le rappelle, sur la règle sanitaire en vigueur, on l'a constaté ici, le protocole est bien appliqué. On va peut-être terminer sur l'avenir. Est-ce que les conditions actuelles, lorsqu'on est enseignant, directeur, même étudiant, permettent de dispenser des enseignements de façon normale? Est-ce que le but pour cette rentrée, c'est de faire en sorte que tout va se passer normalement pour les élèves qui arrivent?
Écoutez, moi je pense que c'est une question vraiment intéressante parce que c'est sûr que de bosser avec des masques tout le temps, de devoir se demander combien il y a d'étudiants par salle, etc., c'est pas tellement dans notre ADN. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que, par exemple, cette semaine-là, qui a été impulsée par quelques enseignants, eh bien, elle l'a été aussi dans un contexte particulier, lié non pas obligatoirement au Covid, mais au confinement, au fait de revenir à l'école. Et ça, c'est toujours bien. Donc la question de la normalité chez nous, ce n'est pas obligatoirement une valeur. Vous voyez, c'est que...
Oui, oui, tout à fait.
Voilà, ce qui est important, c'est que chacun ait envie de proposer des choses qui lui permettent d'avancer dans ses propres réflexions.
Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jeanne, directrice de l'ENSA Limoges. Merci encore de l'accueil proposé à la radio Bob FM. L'émission L'eau à la bouche continue. On vous laisse, on vous libère, puisqu'on imagine qu'il y a...